croisée. Chers auditeurs de Forum Opéra Echo Buzz, bonjour, merci d'être avec nous pour cette nouvelle saison de Croisée qui accueille aujourd'hui le fondateur et directeur musical des Paladins, Jérôme Goreas, à l'occasion de la recréation de l'Egisto de Marco Marazzoli et Virgilio Mazzo, qu'on a plutôt l'habitude de rencontrer dans les livres d'histoire de la musique et de l'opéra sous le titre « Qui soffre spera », que celui qui souffre espère, qui est considéré comme la première comédie en musique. Et une découverte récente de la musicologue Barbara Nestola nous apprend que cette œuvre a été le premier opéra représenté en France en 1646, parce qu'on croyait jusqu'à très récemment que c'était l'Egisto, mais de Cavalli. Jérôme Goreas, quand certains restent faute de voix derrière leur clavecin à s'escrimer sur des basses plus ou moins chiffrées, vous avez franchi le pas et étudié le chant, avec notamment Xavier Depraz, qui était un pilier de l'Opéra de Paris, un peu oublié peut-être aujourd'hui, mais une grande basse française, une grande basse claire française. Et puis vous vous êtes spécialisé dans le répertoire baroque avec William Christie, un peu comme une conséquence logique, en tout cas à l'époque. Vous arrivez aux arts florissants, où William Christie vous confie des rôles importants. Vous participez aux expériences tant à la scène qu'au disque d'Attis, de Castor et Pollux, des Ânes Galantes ou encore de l'Orfeo de Luigi Rossi. Entre 91 et 93, vous êtes à l'école de chant de l'Opéra de Paris et vous allez ensuite travailler avec de nombreux chefs dans des répertoires très variés, avec quand même une prédilection pour la mélodie française. Dès 97, votre clavecin et vos basses plus ou moins chiffrées vous démangent quand même et vous mettez en place un petit groupe de musiciens. Vous faites comme ça ponctuellement des concerts. Et puis en 2001, vous fondez véritablement l'ensemble qui porte le nom des Paladins, cet opéra de Rameau. Les premiers enregistrements de l'ensemble vous présentent encore avec cette double casquette de chanteur et de directeur musical. Maintenant, vous ne chantez plus, ou du moins plus en public. Et au fur et à mesure que s'est affirmée l'identité de l'ensemble, votre répertoire s'est organisé autour de deux pôles. Le second peut être encore moins exploré que le premier. D'abord, c'est la musique italienne du Seicento, du XVIIe siècle, profane et sacrée. Et puis, les débuts de l'opéra comique français. Alors, pourquoi ces deux pôles-là ?
Je pense que dans le programme des Paladins, il y avait cette volonté de défendre quelque chose, puisqu'au moment où j'ai fondé cet ensemble, il y avait bien entendu déjà de nombreux ensembles baroques qui faisaient des choses extrêmement importantes et très bien sur des répertoires qu'on commence maintenant à connaître, comme Vivaldi, Handel ou encore Rameau, Monteverdi. Et j'ai toujours été attiré par les choses pour lesquelles il fallait se battre, pour la difficulté un petit peu. Et en fondant les Paladins et en donnant ce nom, j'avais dans l'idée que, étant donné que les Paladins sont des justiciers qui défendent la veuve et l'orphelin, les causes un petit peu difficiles, il y avait toujours dans la vie, que ce soit en musique ou ailleurs d'ailleurs, des causes difficiles pour lesquelles ça valait vraiment le coup de se passionner. Et que finalement, pour un parcours qu'on espère long, parce que finalement faire de la musique, c'est vivre, il fallait quelque chose qui me tienne assez longtemps. Et donc, c'est vrai que aux côtés de répertoires que j'aime énormément, comme Handel par exemple, mais que, encore une fois, d'autres font très bien, il y avait des répertoires qui méritaient d'être défendus et qui étaient un petit peu négligés, voire totalement négligés. Et ce sont des répertoires que je n'ai pas forcément tout de suite découverts, comme l'opéra comique par exemple, mais chemin faisant, quand on fait tel ou tel répertoire, on s'aperçoit qu'il y a des choses à côté ou juste avant. Et puis en faisant ces répertoires différents, on comprend pourquoi d'autres répertoires ont pu exister. Quand on entend du Buxtehude, ben on comprend pourquoi Bach a pu composer comme il a composé. Quand on entend du Porpora, on comprend aussi pourquoi Handel a pu lui piquer certaines choses parfois. Et je trouve que ces chaînons manquants sont très importants pour comprendre un petit peu ce qu'a pu être la musique. Ça ne peut pas se définir parce que c'est quelque chose qui est toujours mouvant, puis il n'y a pas d'évolution au sens où ça devient mieux. Mais il y a un changement qui est perpétuel. Et c'est ce côté mouvant qui m'intéresse et qui m'a conduit justement à m'intéresser à des musiques aussi qui font partie de périodes et d'arts que j'apprécie beaucoup, comme par exemple la musique italienne du début du XVIIe siècle.
Ce côté mouvant apparaît aussi dans la restitution des sources, des partitions, puisque souvent oui. On a affaire à des manuscrits qui sont lacunaires. Alors comment on fait quand on se retrouve comme ça face à une partition comme celle du Couronnement de Poppée, par exemple, où il y a juste une ligne de basse, oui. Et puis il faut remplir, il faut savoir comment on se débrouille avec tout ça.
Mais je crois que c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé, puisque dans mes études de clavecin, quand on étudie le clavecin, on étudie l'harmonie. On fait un peu d'analyse, de contrepoint, donc on se familiarise avec le processus de la composition. Et c'est vrai que la grande chance finalement de pouvoir faire de la musique du début du baroque, c'est que, comme vous le dites, les partitions sont très lacunaires, parce qu'à l'époque, tout se faisait en répétition qui était très longue. Et d'ailleurs, c'est très important, j'ouvre ici une parenthèse, parce qu'on dit toujours, oui, ils improvisaient, mais improviser, il faut savoir le faire, et on fonde l'improvisation, et ça les jazzmen vous le diront, sur une pratique et sur un travail. Et au moment venu, quand on improvise, c'est sur des bases solides. Et à l'époque, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on improvisait, mais sur du travail au préalable et sur des répétitions qui étaient assez longues. On ne se lançait pas comme ça. Et donc, la possibilité de reconstituer des parties instrumentales qu'on n'a plus, qui n'existent plus parce qu'elles étaient sur des copies qui ont été perdues. Le fait de déterminer quels instruments on va mettre, de déterminer quelle couleur il va y avoir. Tout ça, je trouve ça extrêmement excitant pour une musique qu'on appelle musique classique. Et je pense que c'est peut-être le seul répertoire où on peut se permettre de faire ça. Donc il y a un aspect vraiment de création, un aspect très contemporain qui m'a beaucoup séduit.
Il y a certains chefs qui instrumentent beaucoup. Il y en a qui instrumentent beaucoup moins, qui s'en tiennent aux effectifs dont on sait qu'ils étaient dans les fosses vénitiennes grâce aux fiches de paye des musiciens notamment. Quel est votre point de vue à vous là-dessus ?
Alors effectivement, c'est une question qu'on se pose dès qu'on est confronté à ce genre d'œuvre et ce genre de travail. Déjà, il faut savoir que c'est un travail qu'on ne fait pas trois semaines avant de commencer les répétitions. Il faut beaucoup y penser. Et puis, savoir exactement quel aspect, je dirais, physique on veut que la musique puisse avoir. Alors, c'est vrai que moi, en général, je pars de l'effectif qu'il y avait à l'époque. C'est très différent selon qu'on soit à Rome ou à Venise, parce qu'à Venise, les théâtres étaient des théâtres publics. Qui dit théâtre public dit entrepreneurs de spectacle. Les entrepreneurs de spectacle, donc, ou les impresarios, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient gagner le plus d'argent possible, mettre le plus de public dans la salle et donc des fosses toutes petites, parce qu'il fallait qu'ils rentabilisent leurs investissements. À ce moment-là, on se rend compte que l'opéra vénitien, c'est un opéra de plateau avec un petit orchestre. En revanche, à Rome, on avait beaucoup plus de moyens. C'était pas des théâtres publics au XVIIe. C'était des théâtres de cour, des théâtres qui appartenaient à des mécènes, à des cardinaux, des princes, et ils pouvaient se permettre d'avoir plus d'instruments, tout simplement. Donc il faut, je pense, aussi tenir compte de ces données-là quand on veut reconstituer un son, et en partant de ce son reconstitué, imaginer quelque chose de totalement actuel aussi.
Et vous avez fait l'Ormindo de Cavalli et le Couronnement de Poppée de Monteverdi dans le cadre de l'Arcal, avec des mises en scène plutôt contemporaines. Comment est-ce qu'on travaille avec les metteurs en scène pour garder cette notion de restitution sur le plan musical et en même temps avec une imagerie plutôt moderne ? Comment est-ce qu'on concilie ça ?
C'est une question de choix. Quand j'ai commencé à faire de l'opéra, en tant que chef, je me suis posé la question de savoir pourquoi je voulais faire de l'opéra. Et très vite, il m'est apparu que j'avais pas envie de reconstituer quoi que ce soit. J'avais au contraire envie de partir d'une bonne connaissance du style, Mais le but, c'était d'arriver à attraper un esprit, l'esprit d'une époque, et ce en quoi cet esprit peut nous parler à nous, personnes du XXIe siècle, et les points communs qu'on peut avoir avec ces gens du XVIIe. Et il se trouve que justement, quand on fait de l'opéra comme Monteverdi, Cavalli, c'est un opéra qui n'est pas du tout un opéra de cour, c'est un opéra très humain, avec des personnages nobles, des personnages populaires, parfois vulgaires, personnages comiques. Donc il y a une certaine liberté au point de vue du corps et au point de vue aussi de la façon de s'exprimer, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver chez Lully ou Rameau, parce que là on est en France, c'est une toute autre culture. Donc il m'est apparu que c'était bien plus intéressant de faire appel à des metteurs en scène qui travaillaient sur une conception moderne du jeu de l'acteur. Je trouvais que le jeu de l'acteur était vraiment quelque chose de primordial pour relier à cette musique et pour faire en sorte qu'elle nous parle vraiment.
Et la question dans ce répertoire de la vocalité, certains mettent en avant une forme de déclamation, d'autres sont plus dans une forme d'hédonisme vocal. Où est-ce que vous vous situez, vous, par rapport à ça, dans la demande que vous faites aux chanteurs ?
Mais je pense qu'on ne peut pas être totalement dans l'un ou dans l'autre. Alors c'est vrai que moi, je fais une recherche qui me tient maintenant depuis pas mal d'années, une recherche sur le parler-chanter. Je trouve que c'est un chantier énorme. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore assez exploré, sur quoi il y a énormément d'expériences à faire. Ce parlar cantando, ce parler-chanter qu'on a mis au point au début du XVIIe siècle et qui est vraiment une sorte de voyage permanent entre la voix parlée et les sons chantés. Donc c'est le récitatif, c'est cette façon de s'exprimer comme si on racontait une histoire aux gens, mais en ne privilégiant pas uniquement le ruban sonore d'une voix, mais en privilégiant vraiment les paroles. Mais dans tout opéra, et en particulier ces opéras très contrastés que sont les opéras italiens, il y a des moments vraiment suspendus, des moments extatiques, des moments très très poétiques. Et ils sont très clairement définis. Ils sont des berceuses, des sommeils, des airs de douleur. Il y a des moments où il ne faut pas qu'il y ait d'air, il ne faut pas qu'il y ait de trop de sons, ou en tout cas, il faut qu'il y ait d'abord de la voix parlée, même si elle est forte. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut travailler sur ces deux aspects différents dans ce genre de répertoire. C'est ce qui fait que c'est passionnant.
Moment extatique entre tous, le duo final du Couronnement de Poppée de Monteverdi. Enfin, même si ce duo final est on pense, de Ferrari et non de Monteverdi, que vous avez donné en tournée, et notamment au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis en 2010 et 2011. Donc on écoute ce duo final avec Valérie Gabaye en Poppée et Marisse Witzorek en Néron. C'était une mise en scène de Christophe Rauque.
Thank you.
Vous venez d'entendre le duo final du couronnement de Poppée de Monteverdi avec Valérie Gabaye et Marisse Vitsorek sous la direction de Jérôme Coréas. Alors, Venise, on connaît un peu. Rome, on connaît un peu moins. Ça a été un peu moins exploré, même si il y a un plus grand intérêt maintenant, notamment avec le Sant'Alessio de Landi qui a été donné récemment. Pourtant, c'est un formidable laboratoire. Il y avait beaucoup de moyens grâce au mécénat. Comment on fait son chemin là-dedans ?
D'abord, il faut s'intéresser beaucoup à l'histoire parce que la musique est liée à l'histoire et aussi à l'histoire de l'art. Parce que quand on voit les tableaux ou les sculptures ou l'architecture romaine de cette époque-là, c'est la même chose que la musique. Et Dieu sait si à Rome, la peinture, l'architecture, la sculpture ont eu vraiment à cette époque-là, au XVIIe siècle, une très grande importance. D'abord parce que les Italiens sont évidemment très esthètes, mais aussi parce que ces choses-là font partie de tout ce qui est de l'ordre du pouvoir, tout comme la musique d'ailleurs. Et donc, la musique fait partie d'un tout, ce qui n'est d'ailleurs plus le cas aujourd'hui, bien malheureusement. C'est-à-dire que la musique fait partie d'une culture générale qu'un certain nombre de gens peuvent avoir. Et d'ailleurs, plus qu'on ne pense. C'est-à-dire que, de même qu'à Venise, il y a beaucoup de gens du peuple qui ont accès à cette culture, ne serait-ce qu'en la voyant, mais aussi en ayant la possibilité d'assister à des représentations théâtrales. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce n'est pas un art vraiment élitiste comme on conçoit aujourd'hui. C'est vrai que donc à Rome, c'est très différent parce que, comme vous dites, il y a beaucoup de moyens. Il y a le pape, il y a des cardinaux, il y a des princes. Tous ces gens-là sont très riches. Tous ces gens-là, non seulement veulent éblouir, mais ils sont aussi très, très sincèrement attirés par l'art et par, pas seulement par l'art, mais aussi par les sciences. Et il y a ce qu'on appelle les académies, c'est-à-dire tous ces cercles savants où on se réunit une fois par semaine, par exemple, chez un tel ou un tel. Et c'est un petit peu comme, je dirais, comme les salons un peu plus tard à Paris, mais je dirais quelque chose de plus profond et de plus scientifique. On parle d'astronomie, on parle de musique, on parle de peinture, on parle de religion. Enfin, on est, voilà, c'est des préoccupations quand même assez importantes. Et il y a énormément de mécènes, comme par exemple la reine Christine de Suède, qui dans les années 1650-60 a énormément mécéné des peintres et des musiciens, jusqu'à Corelli d'ailleurs. Et donc on a des gens qui ont envie, alors qui ont déjà une grande culture aussi, ça il faut pas l'oublier, qui ont tout lu, et qui ont une grande culture générale classique, et donc qui ont envie de nouveautés. Et qui ont envie qu'on les surprenne. Alors, il y a pas mal de compositeurs aussi à cette époque-là, Mazzocchi, Rossi et d'autres, qui font des expériences, Marazzoli aussi, des expériences harmoniques, musicales. On cherche quelque chose. On n'est pas là pour contenter des impresarios, des gens qui gagnent de l'argent et du public qui veut de la variété. On est là pour chercher. Et ça donne des résultats très étonnants, comme par exemple cette Egisto qui a été fait par Marazzoli et Mazzocchi, donc deux compositeurs qu'on connaît très peu aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient vraiment parmi les plus connus, et qui est vraiment une somme de trouvailles musicales assez incroyables et aussi d'un livret tout aussi incroyable.
Et un livret écrit d'ailleurs par un cardinal qui allait devenir... Pape.
Mais oui, c'est ça qui est incroyable à Rome, c'est qu'on a des cardinaux qui écrivent des livrets d'opéra, enfin c'est quand même invraisemblable.
Ils écrivent quand même l'opéra, en passant de Florence à Rome, l'opéra va devenir hagiographique, l'opéra va intégrer le mélange des genres, mais la musique se doit aussi à Rome d'être quand même, c'est les états du pape, il faut qu'elle soit édifiante aussi.
Oui, alors... Justement, ce qui m'a beaucoup frappé et qui a été déterminant dans mon choix de cette œuvre et dans ma volonté, mon désir vraiment de monter cette œuvre, c'est que ce livret est quelque chose d'assez incroyable. Il faut en dire quelques mots parce que, donc on a un cardinal qui est, comme on disait, papa habile, c'est-à-dire papable.
C'est-à-dire oui.
Il peut prétendre être élu et il le sera quelques années plus tard. Donc un personnage très important. Qui est un grand lettré et qui écrit un livret d'opéra qui est un opéra populaire avec une histoire qui, pour la première fois justement, ne fait pas appel à des héros ou à des dieux, à des personnages emplumés, empanachés, mais au contraire à des personnages pauvres qui habitent dans la campagne romaine. Le héros est complètement ruiné, il n'a plus qu'une tour et une espèce de château en ruine, il n'a pas de quoi nourrir sa maison, il a des serviteurs qui sont insupportables, qui sont très lettrés d'ailleurs, qui font des citations, mais qui sont quand même aussi très vulgaires, parce que ça, on aime ça à cette époque-là, ce mélange entre la vulgarité et puis le sublime. Et on a une histoire, voilà, qui se déroule dans cette campagne romaine d'une façon assez quotidienne, même s'il arrive plein de choses étonnantes. Et ce qui est assez étonnant, c'est que sous cet aspect très profane se cache, et ça c'est très fort quand même, se cache un livret qui en réalité est religieux. Et alors moi j'ai trouvé ça incroyable, j'avais jamais vu de livret comme ça. C'est-à-dire que donc on a cette histoire profane en surface et dessous tout un tas de symboles et de références à la religion, à tout ce qui est un petit peu caché, au symbolisme, à commencer d'ailleurs par la symbolique de la tour. Donc il y a une tour. La symbolique aussi du titre, parce que qui souffre espère, on a donc qui souffre espère, peut espérer l'espoir. On a tout au long de l'œuvre des vertus cardinales de la foi qui se détachent, la foi, l'espérance et la charité, qui sont les trois vertus théologales qu'on retrouve partout dans l'histoire. Et on voit plein de symboles religieux qui, quand on fait bien attention au texte, affleurent, ça et là. Et on se rend compte que c'est, en fin de compte, un formidable instrument de propagande religieuse dissimulé sous une histoire, tout ce qu'il y a de plus terrienne et quotidienne. Donc ça, c'est quand même assez incroyable.
On va d'abord écouter un extrait de la cantate spirituelle de Marco Marazzoli, La Predica del Sole, où le soleil donc demande aux hommes de ne pas trop l'admirer, plutôt admirer celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu. Et donc nous allons écouter toute la fin de cette cantate où on pourra aussi apprécier l'esprit d'expérimentation de Marazzoli. C'est un enregistrement que vous avez réalisé sous le label Ambronet.
Ma sentite mortali, quel luminoso fasto che l'universo ad adorar mi stringe è un nembo, un fumo, un'ombra al paragon di lui che in suon possente sveliomi ad imperar figlio del niente. forma che m'imprima.
C'était un extrait de la cantate spirituelle La Predica del Sole de Marazzoli chez Ambronet Éditions, avec les paladins et les chanteurs Monique Zanetti, Barbara Cousa, Jean-François Lombard et Arnaud Richard. On en revient à cet Egisto justement. Vous parliez de tout l'aspect religieux qui sous-jacent, mais il y a aussi tout cet aspect populaire, les choses jaillissent comme ça, on ne sait pas trop d'où, notamment dans les intermèdes. Il y a trois intermèdes dans cette œuvre.
Ouais.
Et c'est vrai que l'histoire de la musique retient cette œuvre comme ouais. La première comédie en musique. Alors, ouais. Quels sont les outils de cette comédie en musique? Comment est-ce qu'on arrive à faire rire avec de la musique?
Alors, il y a aussi un autre aspect, juste pour compléter ce que vous disiez, c'est qu'il y a un aspect païen, en même temps que l'aspect religieux et l'aspect populaire. Et ça, le côté païen en Italie, évidemment, Rome, la Rome antique n'est pas loin. Il y a toujours ce côté païen, des petites divinités de la campagne, etc. Et donc, justement, ça fait partie de l'humour qu'on y trouve. Il y a beaucoup d'humour, d'abord, parce qu'il y a des personnages qui sont là pour ça. Par exemple, une dame de compagnie qui est entremetteuse, deux valets, alors qui sont très importants. Il y en a un qui parle en napolitain et l'autre qui parle en bergamasque. Donc, ils ont chacun leur langue, qui est très, très différente. Naples très au sud, Bergame complètement au nord, avec une langue qui ressemble un peu à de l'allemand parfois.
Ce plurilinguisme, c'est vraiment une caractéristique de l'opéra romain. On ne trouvera plus tellement ça après, en tout cas avec des dialectes.
Oui, oui, oui. Donc voilà, vous voyez comme c'est lié à la terre. Ça, c'est très italien. Je trouve ça vraiment passionnant parce que c'est lié au quotidien, c'est lié au peuple. Je pense que la noblesse italienne n'est pas séparée du peuple. Et donc, il y a des personnages qui sont tout à fait particuliers. Il y a évidemment un page qui est voleur, qui est menteur. Ce sont des archétypes de ce répertoire. Et aussi, alors il y a une scène, une très grande scène, qui est un intermède, qui est assez étonnante. Il s'agit de la Fiera di Farfa. C'est la foire de Farfa. Farfa qui se trouve dans la région de Rome, au centre de l'Italie. Et donc, Marazzoli a essayé vraiment, et à ma connaissance, c'est le seul, pendant 25 minutes, de représenter un marché. Ça, il faut le faire, parce que dans un marché, tout le monde parle en même temps, donc c'est impossible de noter ça sur une partition. Et il y a toutes sortes de gens qui ont des métiers bien particuliers et qui déballent leur camelote et qui vendent leur camelote. Et donc, ces gens chantent en même temps ou pas en même temps, ils s'interrompent. Il y a toute une recherche à faire justement sur la façon de chanter, parce que bien évidemment, on ne peut pas chanter ça comme on chante de l'opéra, sinon ce serait ridicule. Il faut revêtir vraiment vocalement un habit très populaire. Et on a vraiment quelque chose qui est très riche en couleurs, qui bouge tout le temps et qui est très très drôle, parce qu'on a toutes sortes de personnages qui se disputent, qui se battent, qui veulent se séduire. On a un charlatan. Donc il y a toute cette espèce de liste de personnages qu'on retrouve dans la Commedia dell'arte, qui sont tous complètement fous et complètement insensés dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent.
Il y a un enregistrement récent de cette Fiera di Farfa par le poème harmonique, où il relève également des références au combat de Tancrède et Clorinde.
Oui, oui, mais pas seulement dans la Fiera di Farfa d'ailleurs. Dans un autre moment, le valet dit « Amico hai vinto ». Ça, c'est une citation. Mais il n'y a pas que des citations de Monteverdi. Il y a des citations du Tasse avec la Jérusalem délivrée. Il y a des citations aussi de musique religieuse. Il y a un personnage qui est très, très triste, mais néanmoins glouton, et qui s'exprime toujours en faisant des références à des motets, des choses de Palestrina... et qui est triste, un peu comme Don Quichotte, mais qui est évidemment très drôle du même coup. Et il y a énormément de références, et je suis persuadé qu'on n'en a pas vu, nous, la moitié, des choses qui nous ont échappé. Et ça, je pense que ça faisait évidemment beaucoup rire le public de l'époque. C'est un petit peu comme aujourd'hui, quand on va voir une pièce de boulevard ou un film avec des dialogues qui nous font penser à ce qu'on a entendu dire par les uns, par les autres. C'est exactement le même système.
Mais qu'est-ce que les Français de 1646, quand Mazzocchi et Marazzoli ont été invités par Mazarin pour présenter cette œuvre en France, qu'est-ce qu'ils ont pu y comprendre à tout ça?
Rien. Rien. Je pense que c'est l'histoire d'une grande incompréhension.
C'est ce qui les a un peu dégoûtés de l'opéra italien.
Mais oui, parce que regardez, donc 1646, premier opéra donc qui leur est présenté. Ça dure certainement, moi j'ai fait des coupures, mais ça durait 4 ou 5 heures. Ils étaient figés sur leur chaise, ils n'ont rien compris, parce qu'il n'y avait pas de sous-titres à l'époque. L'année d'après, l'Orfeo de Rossi, sublime musique, ça a été un échec également. Ensuite, Cavalli est venu, donc non pas effectivement en oui. 1646, mais 15 ans après, avec Circé puis et Ercole Amante. Ça a été des fours retentissants. Et pourtant, Dieu sait si Ercole Amante est un chef-d'œuvre, c'est de la musique sublime. D'ailleurs, qui annonce Lully? On a des échos de choses sur lesquelles va travailler Lully ensuite. Mais à chaque fois, c'est l'échec parce que... Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est de l'italien. Ensuite, parce que les Français sont très intéressés par la danse et qu'il n'y a pas beaucoup de danse dans ces opéras. Alors, il se trouve que dans les Gisto, il y en a, mais il n'y en a pas tout le temps. Les Français adorent la danse et les Français sont très intéressés aussi par les décors. Et ça, c'est très important pour eux. Et d'ailleurs, souvent, on lit des comptes rendus. Tel opéra était formidable, les décors étaient très beaux. On n'entend pas du tout parler des chanteurs, ni de l'orchestre, ni de la musique. Et je crois vraiment qu'on a essayé de forcer, enfin, c'est Mazarin qui a essayé de forcer les Français à ingurgiter cet art italien pour essayer de... c'était bien sûr très politique, mais aussi esthétique. Et je crois que les Français n'avaient... tout simplement pas envie d'assister à des spectacles auxquels ils ne comprenaient rien. Eux, ils préféraient des spectacles de ballet où tout le monde dansait, où c'était bien plus agréable pour eux. Mais c'est bien pour ça qu'il a fallu attendre ensuite, pas un siècle, mais si, un siècle, pour que la musique italienne vraiment revienne en France au milieu du 18e. Donc oui, ça n'a pas marché.
On va écouter un extrait de Les Gisto, c'est le premier intermède, c'est déjà une belle pagaille, hein. c'est pas encore la Fiera di Farfa, mais c'est quand même déjà une belle pagaille. C'est un extrait qui a été capté lors d'un concert à la Fondation Royaumont et on y reconnaîtra entre autres Hervé Lamy, Jean-François Lombard, Monique Zanetti.
Ma voi, coppia gentile, con le calore voci, pur come vostro stile, quasi cigni dipindo e dell'icona, fate sentir a noi qualche canzona. Diapason, cantò allegramente.
Non si può dir quanto parli bella. sua dea Pimpinella. Tu sei più bianca l'elo né un prato di mezzo inverno quando è nevicato. Questo rispetto d'ore tu cantando, dite un altro a me, vi raccomando.
Con si fosca si piazza, si trova gente, io temo, turberà questa danza. Venisce mio che l'acqua e già il vento, la grande accompagna.
Su per la campagna, ciascun pensiero allo scampo!
Allo scampo, allo scampo, allo scampo!
Allo scampo, allo scampo, allo scampo!
C'était un extrait du premier intermède de Legisto, de Mazzocchi et Marazzoli, capté à la Fondation Royaumont avec les paladins et leur chef Jérôme Coréas. Cet Legisto a été préparé avec l'unité scénique de Royaumont et des jeunes chanteurs. Parlez-nous un peu de ces chanteurs, de leur recrutement, des qualités que vous cherchiez pour cette œuvre en particulier. Vous parliez de votre travail sur le parler chanté, comment on leur inculque ça.
Alors effectivement, il fallait un profil tout à fait particulier. Je pense qu'il faut des chanteurs qui acceptent de renoncer au beau chant, c'est-à-dire des chanteurs qui soient autant comédiens que chanteurs, qui aient envie vraiment de défendre des personnages, et de défendre des personnages pas seulement par la beauté de la voix. Il faut que ces chanteurs acceptent que leur voix puisse être parfois moins belle, moins régulière, moins homogène, plus clair, plus sombre, qui puisse murmurer, qui puisse crier, qui puisse, pour les femmes, chanter en voix de poitrine aussi, ce qui est très important pour tout ce qui est grave. Ne pas faire les notes, mais plus des paroles. Et donc, ça demande, je dirais, c'est surtout un esprit particulier, une volonté d'aller vers ça. Et d'ailleurs, bizarrement, plus que des chanteurs dits chanteurs baroques, on a plus souvent qui sont intéressés des gens qui ont fait de la musique contemporaine ou encore du théâtre musical ou de l'opérette et qui peut-être se sont ouverts à d'autres façons un peu moins orthodoxes de chanter et qui finalement peuvent concevoir qu'on peut créer quelque chose qui soit basé là-dessus. Et donc, la recherche que nous avons faite de ces chanteurs, il y en a 12, nous a permis de trouver des gens qui ont entre 25 et 40 ans, donc très jeunes s'ils ont 40 ans, bien sûr, et qui sont des gens qui viennent d'horizons différents. Il y a des gens qui sont plutôt donc, d'horizon baroque, d'autres qui n'ont fait que de l'opéra, d'autres qui ont fait beaucoup de contemporain, comme je disais. Et je crois que c'est cette richesse, qui n'est pas une facilité au départ, mais cette richesse d'expériences diverses qui nous permet d'avoir un phénomène de troupe qui est très important pour défendre ce répertoire, qui va nous permettre aussi d'avoir des couleurs très diverses et d'offrir des personnages très variés.
Et le metteur en scène pour toute cette aventure, c'est Jean-Denis Monory. Vous parliez tout à l'heure d'esthétique contemporaine, mais lui, c'est plutôt un disciple d'Eugène Green, qui fait partie de tout ce mouvement de reconstitution.
Mais il ne faut pas réduire Jean-Denis à cet aspect qui est un des aspects de son expérience. Effectivement, on le connaît peut-être plus par les quelques œuvres qu'il a pu interpréter et cette importante partie hein, de son expérience. Mais il a fait aussi beaucoup de masques et de comédia dell'arte. Il a fait aussi du mime de l'école anglaise. Et il a fait aussi du cinéma. Il a tourné aussi avec Romère, donc, entre autres. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui... Et c'est ce qui m'intéressait, de même d'ailleurs que pour Françoise Degnaud, qui est une chorégraphe magnifique parce qu'elle a aussi, outre son chemin parcouru dans le baroque, elle a aussi beaucoup d'autres expériences. J'avais envie d'être entouré par des gens qui ont vécu des choses très différentes. Et donc, encore une fois, j'avais pas envie de faire une reconstitution. Il n'y a pas de gestuelle baroque, sauf dans des endroits où il y a un peu le théâtre dans le théâtre, où on utilise la gestuelle comme justement référence à une époque et à quelque chose qui se passe sur une scène à une certaine époque, mais pas dans notre histoire. Et donc, il s'agit d'un travail vraiment d'acteur et d'un travail contemporain sur le corps, mais qui ne refuse pas l'acquis de ce qu'on a pu avoir avec un certain nombre d'éléments de gestuelle. Mais ce n'est pas une mise en scène de gestuelle.
Et quel est l'état des sources de la partition ? À partir de quoi est-ce qu'on travaille ? C'est un manuscrit ? Ça a été imprimé ? Ça a été...
Alors, il y a deux sources, il y a deux partitions. La version de Rome, donnée en 1636, au palais Barberini, et la version de Paris, qui se trouve à Paris d'ailleurs, et qui est d'ailleurs celle sur laquelle Barbara Nestola, donc la musicologue qui a fait cette découverte, est tombée à la Bibliothèque nationale. Et donc, c'est en voyant cette version-là qu'elle s'est rendue compte que Cavalli n'était pas venu en 1646 faire les Gisto, qui n'est jamais venu à cette époque-là, mais que ce premier opéra était bien cet Gisto-là. En fait, c'était un manuscrit anonyme, sans titre ni nom d'auteur. Et en l'ouvrant au hasard, elle voit Gisto, elle pense que c'est Cavalli, et puis elle se rend compte que ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même musique, et elle reconnaît qu'il s'offre Esperi, qu'elle connaissait par ailleurs, et donc elle a reconstitué, en retrouvant des lettres également, tout le voyage qu'ont accompli les musiciens appelés par Mazarin pour faire cette production à Paris. Elle a reconstitué un petit peu toute cette entreprise. D'où le fait qu'on ait une partition à Paris. Et donc, ces deux partitions se ressemblent. Il y a quelques ajouts pour Paris. Moi, je suis parti de la partition de Paris, parce qu'il y a quelques scènes, dont une scène avec écho, quelques scènes supplémentaires, une bataille également. Et donc, on est parti de cette partition qui est vraiment très lacunaire aussi. Et donc, on a demandé à la Fondation Royaumont de faire une édition plus claire, de façon à ce que tout le monde puisse la lire. Et on est parti de cette source-là, mais qui est très, très claire quand même.
Donc cet Egisto sera à découvrir dans le cadre de la saison musicale de Royaumont et du Festival baroque de Pontoise au Théâtre des Louvrets à Cergy-Pontoise. Vous enchaînez toujours avec la Fondation Royaumont sur un programme consacré à l'opéra français, de Lully à l'opéra comique, avec Sandrine Pio que vous connaissez bien puisque vous êtes rencontrée au conservatoire, je crois.
Oui, c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur et que nous avions envie de faire depuis pas mal de temps. D'abord parce que Sandrine n'a jamais fait de récital au disque consacré à la musique française. Et puis que la musique française, on a 100 ans de musique française, c'était un petit peu, une gageure, parce qu'un pari, essayer de faire dans le même concert ou sur le même disque du Lully et du Sacchini, qui est un contemporain de Mozart quand même, du Grétry, du Rameau, etc., passer par 100 ans de musique, c'est évidemment essayer avec les mêmes interprètes de faire de la musique qui, évidemment, ne demandait pas le même orchestre ni les mêmes voix. Mais ça offre, je pense, un programme tout à fait intéressant et très, très varié de cette évolution de la musique en France sur 100 ans. Et on avait envie, justement, de construire, c'est ce que nous avons fait tous les deux, avec chacun nos propositions, de construire un programme sur ce siècle de musique tourné évidemment autour de l'amour.
Comment s'est fait le choix ? Parce que, comme vous le disiez, il y a un immense corpus. Oui. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie d'éliminer et puis oui, qu'il faut éliminer. Comment on fait ?
Alors, nous sommes partis de la voix de Sandrine, qui est une voix de soprano aiguë, qu'on a peut-être plus tendance à associer à la musique italienne ou à Mozart. Et c'est vrai que dans la musique française du XVIIIe siècle et du XVIIe siècle encore plus, on a souvent des héroïnes qui sont des soprano 2 ou des mezzo-soprano, des voix plus centrales, plus graves, un peu plus dramatiques, tandis que les voix légères se contentent de faire les bergères et de chanter les oiseaux et les bocages, ce qui évidemment n'était pas forcément ce qui nous intéressait le plus. Alors déjà, ça a fait, si vous voulez, une sélection certaine. Et nous avons essayé de trouver, on avait chacun quelques idées, j'ai fait pas mal de recherches également, on a essayé de trouver des personnages forts qui puissent être défendus par la voix de Sandrine et aussi montrer cette évolution stylistique et vocale entre justement des choses comme Lully ou encore un peu Campra qui sont très déclamées jusqu'à Sacchini avec un air extraordinaire de vocalise, voilà, qui fait penser vraiment aux airs de concert de Mozart, ou bien encore Grétry qui lui aussi mérite d'être vraiment mieux connu, en passant par Rameau avec un certain nombre de choses qu'on connaît de Rameau, donc un mélange de choses connues ou de choses à découvrir.
On va écouter, peut-être avec un peu de nostalgie pour certains, un extrait de l'enregistrement des Indes Galantes réalisé par les Arts Florissants en 1991.
Mon Dieu.
C'est le quatuor Tendre Amour et vous y chantez,
ouais.
Aux côtés de Sandrine Piau, justement, Jean-Paul Fouché-Court et Noémie Rime. C'était un extrait des Indes Galantes de Rameau avec les Arts Florissants, un enregistrement paru chez Harmonia Mundi. Vous volez aussi parfois de vos propres ailes, sans les paladins. On vous a notamment vu dans un spectacle pour l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris, toujours autour de l'opéra comique. Et là, vous allez diriger à l'opéra de Rouen la Vera Costanza de Haydn. Comment est né un peu ce projet de vous faire diriger cette musique-là? Ça va pas forcément de soi?
J'espère que si. J'ai eu l'occasion déjà de faire plusieurs projets en chef invité, surtout à l'étranger d'ailleurs. L'année dernière, j'ai fait un projet de musique française à Saint-Pétersbourg. J'ai aussi dirigé il y a quelques années l'orchestre de chant d'Israël pour une tournée de Stabat Mater de Pergolèse. C'est peut-être pas en France qu'on m'a vu et entendu le plus dans cet autre rôle, mais c'est vrai aussi que quand on a une structure et qu'on a fondée et qu'on dirige, il est aussi très agréable d'aller ailleurs, dans un contexte où tout est pris en charge, où on n'a plus rien à faire que de faire de la musique. Ça fait beaucoup de bien. Et ça fait du bien parce qu'il y a une légèreté qui fait que, comme ce n'est pas lié, le projet n'est pas lié à votre structure, vous ne vous occupez que d'une collaboration harmonieuse. Et souvent d'ailleurs avec des programmes que vous avez moins l'occasion de faire par ailleurs. Et c'est vrai que le fait de diriger souvent de l'opéra comique me permet aussi d'envisager Haydn peut-être d'une autre façon.
Quels sont les critères qui font que vous acceptez telle ou telle invitation ?
La musique. La musique, si la musique est bonne, justement pour paraphraser quelqu'un d'un autre répertoire. Non, mais c'est vrai, quand la musique est bonne, qu'est-ce que vous voulez demander de plus ?
On va se quitter. Je rappelle votre actualité donc avec Legisto de Mazzocchi et Marazzoli, une coproduction de l'Apostrophe, la scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise, de l'unité scénique de la Fondation Royaumont et du Festival Baroque de Pontoise, qui sera créée le 29 septembre à Cergy Pontoise au Théâtre des Louvrais, et qui sera repris le 30 septembre et le 2 octobre. On pourra écouter cet Egisto à Paris au Théâtre de l'Athénée les 19, 21, 22 et 23 octobre. On retrouvera l'Egisto en février, le 4 à l'Opéra de Massy, le 10 au Théâtre d'Herblay et le 16 au Théâtre de Poissy. Comme nous le disions, il y aura aussi un programme toujours à la Fondation Royaumont avec Sandrine Pio. Donc ce programme y sera créé le 8 octobre et vous le redonnerez ensuite les 17 et 19 mars, d'abord au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles et ensuite à la Galerie des Glaces du Château de Versailles. Et puis enfin, comme nous le disions, vous allez diriger la Vera Costanza de Haydn à l'Opéra de Rouen les 6, 8 et 10 avril. On se quitte avec un extrait de L'Ormindo de Cavalli, c'est le prologue, et Sandrine Pio y interprète l'harmonie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Thank you. Oh,